À ceux qui se demandent si les vacances étaient mieux avant ou après, nous répondons que c'est mieux pendant. N'empêche que nous, nous sommes là quand même. Voici CMA. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans C'était mieux après, l'émission qui revient sur les origines des choses. Ce soir, on n'en parle pas d'amour, on l'écrit. L'amour des chroniques bien faites. Voici le sommaire. Quand on lui parle d'amour, elle sort son épistolaire. On jette l'encre avec elle ce soir. Bonsoir Manu, de quoi nous parles-tu ?
Je vous parle ce soir des lettres d'amour à travers les temps.
Oh, le passé, le futur, le passé composé, tous
oui,
les temps.
Oui, alors vous verrez que ça s'arrête très très rapidement. Mais j'en dis pas trop.
D'accord.
Ce sera un peu sexuel, je préviens François.
C'est gentil de prévenir avant. Vous le lisez peut-être dans la presse quotidienne régionale, faire une chronique est tout un sport, ce sera sa première compète ce soir. Bonsoir Nicolas, bienvenue en CMA, quel est ton sujet ?
Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui c'est ma première apparition, j'ai traité de mecs qui tournent en rond, aujourd'hui on parle de sport automobile.
Il y en a qui font ça aussi, mais sans sport ici. Hein. Alors, on ne va pas faire toute une montagne, mais il parle russe ce soir. Bonsoir Mathias, de quoi nous parleras-tu ?
Bonsoir, ce soir je vous ferai monter et descendre à très grande vitesse.
Oh là 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 là
là. Oui, toujours.
En deuxième partie, on retrouvera aussi Cisco, bonsoir, Florian, c'est lui qui queen, et Caro. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
On verra également si on peut tromper légalement et qui est Adèle H. Ce sont les questions qu'on nous a posées au Graal. Alors, beau programme. Commençons tout de suite avec la première partie de CMA. Dans ces chroniques, il n'y a pas qu'une lettre. Elles s'entrechoquent pour former des mots. Et ce soir, ce sont des mots d'amour. Voici la chronique de Manu.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres, carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être.
Je croyais que t'allais laisser en entière.
Non, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu celle-ci.
Oui, elle est jolie, elle s'écoute bien. Alors à cette époque perdue où l'écriture cursive est devenue une rareté et un peu comme une réponse faite à Sandra qui dans sa première chronique de CMA nous parlait du stylo plume, aujourd'hui je vous parle de l'art perdu des lettres d'amour. Je me suis donc mise en quête de son histoire, son origine, mais que nenni Podzob, rien que dalle. Sinon,
c'est amour, ça, hein.
Qu'on en retrouve des traces dans l'Égypte ancienne, point. L'histoire s'arrête.
Ah bon ?
Véridique.
Bon, quand même.
Non, je vous assure, personne
même
n'a fait de
recherche. Même les reines et tout ça.
Donc, je vais me lancer, je vais faire un doctorat en lettres d'amour. Alors, on trouve en revanche nombre de lettres d'amour, dont certaines devenues célèbres, à l'instar de celles écrites par Guillaume Apollinaire à Lou, sa bien-aimée. Lettres écrites pendant la guerre 14-18, quand elle l'attendait, le cœur transi et le derrière bien au chaud, lui, apeuré, le cul mouillé au fond de la tranchée. Alors, que sont devenus ces moments dans l'effort du mot écrit, posé là sur le papier comme un lien direct entre le cœur de l'un vers le cœur de l'autre, mais au final ne visant qu'un seul but, aller du con de l'une vers la bite de l'autre.
Ah oui, non mais d'accord, ok, c'est bon.
J'avais prévenu.
J'avais prévenu.
Ce
serait cru.
Oui, oui, non, voilà, c'est clair, un chat.
Alors, écrire est un acte de communication ancré dans le moment, quand le temps, facteur d'oubli, infléchit le cours des événements et sépare les correspondants. Les lettres d'amour inscrivent à tout jamais un sentiment obscur qui le serait resté s'il n'avait pas été posé sur le papier. Alors quoi qu'on fasse, le temps passe, la prose devient pauvre. J'en veux pour preuve ces quelques extraits que l'on passe par contre de l'année 1900. Mmh. Alors je vous en cite un extrait. Je porte votre lettre à mes lèvres. Sans aucun doute, ce malheureux papier souffre le martyre à cause de mon idolâtrie. Ah. Elle, vu son écriture et sa signature, ça doit être du feu, ça doit être une belle bête. Ça, c'est l'amour est dans le pré 2022.
Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que c'est pas...
On voit que c'est pas tout à fait la même prose.
On connaît la prose quand même.
Ouais, enfin, en même temps, c'est pas non plus le même milieu.
C'est pas le même milieu, mais...
Soyons honnêtes.
Oui, mais de nos jours, tout milieu confondu, c'est même pas radiophonique parce que c'est aubergine et pêche.
Oui, c'est voilà. Vrai.
Donc, je suis pas sûre qu'on y ait gagné non plus. Néanmoins, oreille en plus, toutes les lettres n'ont qu'un but et un seul, suspendre le temps réel qui, transcendé par l'attente, voit le désir exacerbé, l'amourette se transformer en un désir ardent. Mmh. Observons là le joli mélange de sentiments avant qu'enfin n'arrive le savoureux mélange de fluides. Dit de façon moins prosaïque, après avoir pleuré du cœur, on va enfin pouvoir pleurer de la culotte. Et oui.
Qu'est-ce qui lui arrive ?
J'ai pas l'image. Mais non, je ne sais pas. Il fait chaud. Il fait très très chaud.
C'est fini, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'être sur le podcast.
Ah, tu crois que c'est ça ?
Ah, mais oui, mais quand on parle de sexe, on gagne tout le temps.
Ah, d'accord.
Mais oui, bien sûr. Bah, j'en veux pour preuve, Cisco, il a quand même parlé de la vulve de Pauline, alors de la chronique de Pauline.
Là, je vais y aller, moi.
Alors oui, certaines de ces lettres sont de vrais chefs-d'œuvre érotiques à travers les mots chuchotés dans l'écriture, sans intonation ni mimique, mais hautement évocateurs. Ben oui, il faut compenser. Quand t'as pas la parole, il faut le mot, et le mot, il faut qu'il soit suffisamment puissant. Je finirai donc cette chronique en vous parlant de Simone, jeune femme de bonne famille dont les lettres d'amour transgressent toute son éducation. Alors ces lettres écrites de 1928 à 1929 ont été retrouvées dans une vieille boîte au fond d'une cave et ont été éditées chez Gallimard sous le titre Mademoiselle S, lettres d'amour 1928-1929. Je vous le conseille, surtout si vous avez envie d'un peu de folie. Alors, en voici un extrait, et je précise, c'est autant hétéro que gay, il y en a pour tous les goûts. Alors en voici un extrait, je repréviens Françoise, qui je le rappelle est notre auditrice test, ainsi que les oreilles chastes, je vous préviens, cet extrait étant carrément érotique, voire pornographique. Attention.
50 nuances degrés de l'époque. Ouais.
Attention. Eh ben tu crois pas si bien dire. Je colle mes lèvres aux tiennes et je prends ta queue jolie. Mmh. Et lui répondant, regarde entre tes cuisses la belle pine qui t'attend, elle darde vers son trou, sa tête rouge est formidable. 1928-1929, je le précise.
Mais alors, il s'envoie une phrase par une phrase ?
Non, il s'envoie des lettres, c'est des extraits que je te lis. D'accord. Si tu veux lire les lettres en entier, tu lis le livre.
D'accord.
Franchement...
Ah, c'est la lettre X hein, uniquement là.
Ah non, ça commence tout doux, enfin tout doux.
Ça c'est commence l'intro,
un
ça.
Peu plus doux et ça se termine pas très bien, je vous l'avoue.
Bon. D'accord.
Alors on est d'accord qu'à côté, 50 nuances degrés, c'est Martine à la plage, vous ne croyez pas si bien dire. Voilà, tout ça pour vous dire que les lettres d'amour, c'était quand même mieux avant.
Très bien, une bonne chronique, on commence bien.
La meilleure,
c'est pas mal, on verra si elle prend le CMA+. Alors on entend Sosoke dans le fond, parce qu'elle participe effectivement, elle n'est pas dans l'émission, mais elle est venue nous voir, et ça nous fait vraiment très très plaisir. Allez, on continue maintenant, merci Manu. Dans un instant, on va parler sport automobile, mais avant, restons dans l'amour avec une question posée au Graal, pour le moins curieuse. Peut-on tromper légalement ? Voici la réponse.
Question de Franck. Peut-on tromper une femme légalement ?
L'adultère n'est plus une faute pénale depuis presque 50 ans, mais on peut avoir des aventures sans tromper. Regarde Simone et Jean-Paul. Un des couples les plus célèbres du XXe siècle était bien libertin. Simone de Beauvoir est une écrivaine féministe. Elle a reçu le prix Goncourt en 1954. À la fin des années 20, elle rencontre Jean-Paul Sartre, dont elle adore les écrits. Et justement, c'est de là vont s'écrire. On découvre aujourd'hui leurs lettres enflammées, preuve d'un amour sincère. Il n'empêche qu'ouvertement, elle mène une vie amoureuse bien débridée, y compris avec ses élèves, et même ceux de Sartre. Oui, les deux sont profs. Bref, vous imaginez l'organisation. Car on ne parle pas de plan d'un soir, mais bien d'amour multiple. On lui prête même une relation avec une femme. Mais ça, elle l'a jamais dit. Alors, trompait-elle Sartre ? Ouais, on peut pas dire ça. Ils avaient en effet conclu un pacte dans lequel il pouvait y avoir plusieurs amours en parallèle, où il y arrivait même de faire des échanges. Si tout le monde y trouve son compte, alors vive la liberté. D'ailleurs, terminons par une citation de Simone de Beauvoir. De vouloir libre, c'est aussi voir les autres libres. Dont à...
c'est un bon complément à ta chronique, Manu.
Peut-être que Simone... C'est Simone, en fait.
Ah, peut-être. Allez, c'était le Graal à retrouver sur radio-g.fr, rubrique podcast plus. S'il est un sujet peu abordé dans CMA, c'est le sport. Pour remédier à ce problème, nous allons faire appel à un spécialiste. Ça roule déjà pour lui depuis un moment, puisque sa plume est au service de la presse. Ce soir, il entre dans la course du CMA+. Voici la chronique de Nicolas. Il fallait au moins ça pour sa première chronique quand même.
Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Pour ma première apparition dans cette émission, j'ai décidé de vous parler du sport automobile. Trop sous-estimé et trop souvent cantonné à son rôle de berceuse pour les siestes dominicales, j'aimerais, à travers cette chronique, essayer de donner une image différente de ce sport. Alors petite question à votre avis. Depuis quand est-ce qu'on s'amuse à se tirer la bourre sur des voitures ?
À mon avis, c'est même depuis l'invention de l'automobile.
Eh ben exactement.
Ouais,
En fait, c'est à toi de faire la chronique.
Non, mais je sais pas. J'imagine bien que dès qu'on a envie de faire une compétition, dès qu'il y a un truc qui roule.
C'est ça.
Exactement. En fait, dès qu'on a eu des voitures, on a cherché à faire la course. Donc en fait, ça date de la création de l'automobile. Alors que les premières voitures prennent la route à la fin des années, enfin du 19e siècle, les premières épreuves de course automobile, donc de vitesse, donc là par là je dis à celui qui arrivera le premier sur la ligne d'arrivée.
À dépasser 20 km/h.
Attends. Elle est répertoriée en 1894 avec la course Paris-Bordeaux-Paris, soit 1128 km au total. Elle est remportée par Paul Koechlier.
Enchanté.
Donc oui, on ne faisait pas la course sur des circuits, mais bien sur des routes ouvertes. Entre deux villes donc. Mais alors le problème là-dedans c'est quoi? Eh bien c'est que Huguette, habitante et agricultrice de la banlieue de Bordeaux, ne s'attendait pas à croiser une automobile roulant à pleine vitesse sur le chemin en face de son champ.
Ah merde. Elle est morte Huguette.
Alors à pleine vitesse, comme disait Bruno,
ouais.
La pleine vitesse maximum c'était 22 km/h.
Ah ouais, alors c'était à fond là.
Mais alors attends, faut remettre dans le contexte aussi. C'est que c'était les toutes premières voitures. On est en 1894. Donc 22 km/h, c'est énorme.
Bah, pour quelqu'un qui marche, de toute façon, même 22 km/h, tu voles.
C'est ça. Il n'y a presque même pas de carrosserie.
C'était bon, Huguette, alors Huguette.
Un plancher, 4 roues, c'est tout. Et alors, Huguette, elle a encore envie. Bon, ça va.
Enfin, encore envie.
Alors, oui, aujourd'hui, on ne sait pas.
Elle n'est pas morte de ça.
Cependant, il y eut quand même de nombreux accidents, ce qui obligea les organisateurs à fermer les routes ou alors à faire des courses sur des circuits.
Ah, ils n'avaient même pas fermé la route, en fait.
Ah non, c'était des routes ouvertes,
ah ouais, d'accord.
C'était du gravier, mais là, même pas de goudron,
quoi.
Rien du tout. Voilà. Okay. Alors, résumé, 130 ans de sport automobile en 6 minutes, c'est impossible. Donc, je vais essayer de revenir sur les bases. Donc, dans le sport auto, il y a plusieurs catégories et plusieurs manières de faire la course. On a les courses en ligne, simples, à l'image de la Formule 1, créée en 1950, où 20 pilotes parmi les meilleurs au monde s'affrontent pour arriver le premier à boucler les 300 km minimum que doit faire un Grand Prix. Donc, en fonction de la taille du circuit, on doit faire plus ou moins de tours. C'est pour ça que quand on est à Monaco, on fait 75 tours, alors que quand on est au Grand Prix de France, on en fait 32. Ouais, parce que le Grand Prix de France est plus long que Monaco.
Bah, dis donc, j'avais même pas remarqué que moi, le nombre de tours était différent en fonction des circuits.
Voilà.
Bah, t'as jamais joué à Mario Kart ?
Moi, je savais qu'il fallait faire un nombre de tours défini, mais je savais pas les kilomètres qu'il fallait faire.
C'est ça, c'est 300 km. C'est 300 km minimum.
Putain, on
c'est
apprend
ça.
Des trucs de dingue.
Ah ouais.
Après, il faut faire le plein, exactement. Donc, cette catégorie met en avant du coup la vitesse, l'efficacité des pilotes et des voitures. Mais on a aussi des épreuves d'endurance. On a appelé ça le WEC pour World Endurance Championship, créé en 2012, où les pilotes ils doivent être les premiers à franchir la ligne d'arrivée dans un temps minimum qui dépend en fonction de l'épreuve. C'est-à-dire qu'on doit faire, admettons, 6 heures. Donc ça, on va appeler ça les 6 heures de Spa-Francorchamps.
Ah,
les 12 heures de Monza.
Les 24 heures du Mans.
Et voilà, l'épreuve la plus connue, les 24 heures du Mans. Donc l'épreuve la plus connue, c'est les 24 heures du Mans, considérée comme une des courses les plus prestigieuses du monde. Elle met donc en avant l'endurance des voitures et des pilotes, mais représente aussi une prouesse technique. Faire la course de nuit, pendant des temps très longs, c'est extrêmement compliqué pour les machines, mais aussi pour les pilotes. Il y a aussi d'autres catégories, on connaît le WRC par exemple, où là c'est pareil, c'est des courses sur des chemins, etc. C'est du rallye, quoi, en gros. Le sport auto, c'est aussi des pilotes, dont certains vont devenir de véritables légendes, comme Michael Schumacher ou Lewis Hamilton, que certains doivent connaître. Tous
oui,
deux, cette fois,
oui,
champions du
même.
Monde de F1.
On ne connaît pas beaucoup, mais enfin là, on les
là,
connaît.
Là, quand même, on connaît. Donc, c'est pour dire à quel point, quand même.
Oui, c'est vrai. Même quand on n'aime pas ce sport ou qu'on ne le connaît pas, on connaît
on
ces gens-là.
Les... Donc, on a à leur côté aussi, on peut retrouver notre bon vieux Alain Prost National, connu pour sa grande bataille contre Ayrton Senna, qui glane à eux deux, donc respectivement, 4 et 3 titres mondiaux.
Ouais. Mmh. Il y en a un qui est mort quand même.
Il y en a un qui est mort aussi, parce que oui, le sport auto fait des victimes, malheureusement.
Huguette, déjà.
Mais non, elle est
non,
pas
bon, Huguette, repose en paix, Huguette. En rallye aussi, on possède un grand palmarès en France, grâce à nos deux Seb, donc Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, respectivement 9 et 8 fois champion du monde de WRC, donc sur les 18 dernières années. Donc oui, la France a remporté 17 des derniers, des 18 dernières.
Eh ben, on est pas mal, dis donc.
On est quand même plutôt pas mal.
Eh, on est bien.
C'est dingue.
Mais il y a autant de grands noms que de catégories. Il serait trop long de tous les citer, mais ils ont tous, à leur manière, façonné la discipline. En 130 ans, le sport automobile a beaucoup évolué. Il a notamment laissé une place à la gente féminine. Elles possèdent leur propre catégorie, la W Series, l'équivalent de la F1 féminine. Elles possèdent aussi leurs propres écuries, comme aux 24 heures du Mans, on y revient, où il y a un équipage uniquement composé de pilotes femmes qui concourent parmi les hommes.
Oui, alors parce que pour les autres, on est obligé de différencier en fait.
Alors non, c'est qu'en fait, c'est, j'allais le dire après, le sport auto, c'est un des seuls sports qui est mixte.
Bah oui, sauf que là, ils font des compétitions féminines et masculines.
C'est ça. Alors pourquoi ? parce que malheureusement le sport auto c'est un domaine qui est très prestigieux, enfin qui est très élitiste on va dire, qui est prestigieux aussi mais très élitiste.
Et quel rapport avec les femmes? Et les femmes n'ont pas le droit à...
Et malheureusement c'est un milieu qui est aussi très macho.
Ah oui c'est ça.
Donc
oui,
quand il n'y a pas beaucoup de place pour des hommes, il y a aussi très peu de place pour des femmes, parce que je rappelle que quand même il y a 20 ans il y avait des petites dames qui étaient à côté des Formule 1, je sais pas si vous vous rappelez, qui mettaient des petits... elles étaient toutes en
soutien-gorge,
etc.
Ouais,
les pom-pom girls. On verrait ça en 2022, ça serait pas possible.
Parce qu'elles pourraient être plus légères aussi pour la voiture.
Ça... Mais il y a de ça aussi. Ouais. C'est, voilà,
ça pourrait être intéressant aussi. Hein.
Ça pourrait être intéressant. Mais il y a un championnat de W Series qui est très intéressant, qui est à suivre sur Canal+, au même titre que la F1, et qui est très intéressant.
Et là, Canal+.
Mais de toute façon, il y a... Enfin, tu parles de légèreté, mais du coup, quand il les 24 heures du Mans, il y a un poids.
Il y a un poids minimum.
Du coup, si t'es trop léger, il faut que tous les véhicules fassent le même.
Ah c'est oui, ça. D'accord.
Là, admettons, t'es plus léger, ils rajoutent des poids dans la voiture.
Ah, c'est comme la boxe.
C'est comme la boxe, ouais. Okay. Exactement. Ouais. Donc, il y a de grandes pilotes qui se sont démarqués, grandes pilotes avec un E qui se sont démarqués, comme la française, encore une fois, Michèle Mouton, qui a couru entre 1974 et 1986.
La fameuse.
Mouton. Non, mais personne ne la connaît, mais elle est quand même très très forte. C'est-à-dire qu'elle collait des piquettes à des mecs en rallye, quand même. Voilà. Ça avait don de.
C'est dingue.
Ah ouais, de beaucoup énerver certains pilotes, hein, parce que voilà, il y a un ego aussi là-dedans.
Sauter par-dessus les autres voitures.
C'est ça, il est content le soir.
Moi, c'est de l'anti-jeu.
Mais on a aujourd'hui aussi Jamie Chadwick, un grand espoir aussi du sport auto britannique, qui est une femme aussi, mais qui est la plus proche, celle qui pourrait être envisagée comme aller en F1, qui pourrait être la première femme à aller
en
F1.
Ça serait bien.
Ça risque d'être compliqué, mais voilà, celle qui serait le plus en capacité de le faire. Le sport auto peut aussi s'avérer être une vitrine de notre société, un peu comme un miroir, et certains pilotes sont devenus des porte-étendards de certaines causes. Ici, je veux parler de Lewis Hamilton, comme je disais, qui est 7 fois champion du monde de F1, qui a pris position pour le mouvement Black Lives Matter lors de la mort de George Floyd en 2020. Il arbore aussi fièrement un casque aux couleurs LGBT lorsqu'il se rend dans des pays où l'homosexualité est un sujet hautement sensible.
Ah bah ça doit leur faire plaisir, oui.
Comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, pour ne citer que. D'autres, et cela peut paraître grotesque, portent la voix de l'écologie, comme Sébastien Vettel, 4 fois champion du monde, mettant aussi en avant sa volonté de limiter au maximum l'impact de son sport sur notre bonne vieille planète bleue. Donc vous l'avez compris, le monde du sport auto est vaste, il reste encore tant de choses à raconter sur ce milieu, où chaque course, chaque catégorie mériterait une chronique, tant ce sport regorge d'anecdotes et d'histoires improbables. Mais qui sait, peut-être que je reviendrai pour en parler.
je voyais bien. Alors, qu'il essayait de se placer, hein, effectivement. Je crois qu'on l'applaudit d'abord pour sa première chronique. Et maintenant, il y a des championnats à voitures électriques.
C'est ça. Alors, j'en ai pas parlé parce que j'avais un temps imparti.
C'est ça. Bah, ce sera pour une prochaine chronique.
La Formule I, la Formule E. On va
c'est
dire,
ça, ouais, d'accord.
Et qui se déroule uniquement dans des circuits urbains, donc dans des villes. C'est-à-dire qu'on a le Grand Prix de Paris, d'accord, avec des voitures électriques.
Ok, bah on aura l'occasion d'en reparler en
et
tout
on peut,
cas.
On peut tout. Préciser pour nos auditeurs qui ne voient pas du coup, mais il porte un très beau t-shirt d'une Ford Mustang Vintage.
Ah oui, ouais,
c'est très stylé. Voilà.
Je suis dans le thème.
Il est raccord.
Je suis
raccord. C'est beau ça.
Ok, c'est noté.
Il faut savoir quelle éducation il a reçue quand même.
Allez, merci Nicolas. Pour finir cette première partie, il est temps d'attraper la queue du Mickey. Ça tombe bien, c'est un spécialiste. Voici la chronique rapide de Mathias.
Les barrières de sécurité sont fermées. Free.
Ça commence! Cramponnez-vous, on y va!
Hey, let's go! Et on est dedans là! On est dedans!
C'est pas le jingle que j'avais choisi, je tiens à le préciser.
De toute façon,
personne ne choisit ce jingle!
Personne.
Oui, oui.
Voilà.
Oui. Oui, alors on parle de quoi?
Alors ce soir, on va parler des montagnes russes.
Ah!
Voilà,
d'où la foire, fête foraine,
voilà,
machin.
La fête foraine et
d'accord.
Tout.
D'accord.
Du coup, je me suis dit, tiens, mais d'où viennent.
De Russie.
Les montagnes russes.
Je sais pas.
Moi. Ça vient bien de Russie. Ça ne ressemblait pas du tout, du coup, à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, vraiment, bah, pas du tout. C'était pas mécanisé comme on connaît aujourd'hui.
En fait, c'était tout plat.
C'est des montagnes, quand même.
C'était bien des montagnes, c'était des collines. C'était sur des collines, en fait, enneigées, qui étaient vraiment travaillées et, pour ça, sur des luges. Et...
Ah, des centres de luge. Donc, c'était tout droit.
C'était tout droit, effectivement, c'était tout droit. Alors, c'était quand
c'est
même vallonné.
Encore,
il y avait quand même un retour.
Ah
voilà,
oui,
hein,
pour se freiner, d'accord.
Oui. Et, mais c'était pas du tout mécanisé.
Mais pas de looping.
Non. Oui, parce que je ne suis pas du tout le fil de ma chronique,
d'accord.
Ça va être très compliqué.
Ok, vas-y.
Du coup, c'était dans les années 1700 à l'époque. Et ça se passait du côté de Saint-Pétersbourg. Donc, voilà.
Le pays d'Anastasia. C'est des références. Hein, c'est une référence, voilà.
Parce que je ne savais pas où c'était et que j'ai découvert cette référence-là aujourd'hui. Voilà, c'était le... pour le petit clin d'œil. Du coup, après 1700, donc, c'est devenu tellement populaire qu'à la fin du siècle, ce sont les entrepreneurs qui ont voulu développer cette idée dans d'autres pays. Mais c'était plus compliqué parce que bah, sans neige et sans colline. Et, enfin,
ah oui, ah bah là c'est sûr, sans neige, sans colline, ça fait quand même beaucoup de choses.
Ça devient un peu technique.
Ouais, donc, j'avoue, ouais.
Du coup, ils ont utilisé des voitures en fait, sur roues solidaires d'une voie. Et c'est en 1812 que la compagnie Les Montagnes Russes construit et géra en fait, un quartier à Belleville, à Paris.
Ah d'accord.
Ouais.
Et la compagnie s'appelait Les Montagnes Russes.
Ça s'appelait Les Montagnes Russes.
Ah oui, bah, donc, du coup, d'où le nom. Voilà.
Voilà, tout simplement.
Ok.
Les premiers loopings, en fait, intitulés à l'époque, dans le journal L'Époque d'ailleurs, ça s'appelait le chemin de fer centrifuge.
Un looping, ça date de quand ça?
Ah, c'était en 1846.
Il y avait déjà des loopings,
ouais.
Tête à l'envers, en 1800.
Ouais.
Ah ouais, c'est ça, moi non plus, j'aurais pas tenté.
Bah, je pense qu'à ce moment-là, ça paraissait. Enfin...
Ah ouais, non, mais c'est... je pensais que c'était vachement plus récent que ça, moi, les loopings.
Il y avait Huguette,
Huguette qui a fait un looping tout à l'heure.
Et du coup, la boucle a mesuré environ 4 mètres de diamètre. Alors, ça ne forme même pas un rond complet encore. Hein.
C'est, d'accord.
Genre, je ne sais pas quelle forme.
Tête à l'envers quand même.
Mais oui, on était déjà complètement à l'envers.
Oh, ouais, fallait bien... Ouais.
Alors, c'est la... je ne sais pas si c'est vraiment une information importante. C'est Lamarcus Athna Thompson qui dépose un brevet pour les premières montagnes russes le 20 janvier 1865.
Ouais, tu as
vraiment
raison.
Qui... Ouais. C'est non. pas une information.
T'as
mais je me suis dit, voilà, il y a eu un brevet qui a été déposé à ce moment-là.
Ouais, mais t'as eu raison.
C'était une date. Je me suis dit, voilà, ça fait partie de l'histoire.
Je pense que c'est important. Il faut être complet.
Oui, voilà. C'est sûr. D'accord. Bon, bah,
je l'ai noté. Je me suis dit, on s'en fout, mais ça fait partie de l'histoire.
On fera une interrogation écrite à la fin de l'émission.
Voilà. Dans les années 1880, les premières montagnes russes aux États-Unis, cette fois-ci, sont basées sur les trains mus par gravité. Donc, c'était vraiment des trains en fait, qui glissaient par la gravité.
Il n'y a pas de moteur dessus.
Voilà.
Okay.
Mis à disposition par des compagnies de chemin de fer. Leur but, c'était de divertir les gens. Comme il n'y avait pas beaucoup de monde en fait, qui utilisait le train le week-end, eh ben, ils s'en servaient juste pour se lancer comme ça. Là. Voilà.
Ils prenaient des j'ai pas compris.
Alors... En fait, ils prenaient les voies de chemin de fer le week-end,
ouais.
Juste pour la sensation de vitesse.
Ah oui, donc c'était tout droit. Enfin,
ouais,
c'était
tout droit, comme
oui,
ça, pour le fun.
D'accord.
Voilà.
Ok, et on pousse la machine à fond. Et
ouais, ça descendait.
Ah oui.
Alors, je sais pas comment ils remontaient ça après derrière, mais.
D'accord, ils trouvaient un endroit où ça descendait, ils remontaient, d'accord. Okay.
Et le premier circuit complet en boucle apparu en 1884. Voilà.
Ah oui, la boucle pour un, d'accord.
Voilà. En 1912. Du coup, alors il y a John A. Miller, qui est souvent appelé le Thomas Edison des montagnes russes, a développé une nouvelle roue,
l'angle
friction.
Excuse-moi.
Tu m'aides pas là. Permettant au train de circuler à très grande vitesse tout en restant accolé aux rails. Du coup, il y a vraiment une espèce de mécanique.
D'accord. Donc on pouvait faire des virages sans que ça
ouais,
tombe quoi. Ça,
voilà
ça,
vraiment qui restait ancré dans le sol, que je ne pourrais pas vraiment
d'accord,
décrire.
Ça doit prendre en dessous la rail, je pense, pour, comme ça, j'imagine.
Ouais,
sur les côtés.
Alors là, il faut discuter avec les gars qui sont plus dans le côté mécano.
Aujourd'hui, les roues des trains, elles sont rondes, mais sur le côté intérieur du train, elles sont plus larges.
C'est vrai, pour éviter que ça déraille, ouais. Donc c'est peut-être ce genre de choses.
Donc ouais, il y a une espèce de technologie à ce moment-là qui.
Ah, c'est dingue ça. Ouais, bah ça les montagnes russes, ils
connaissent. Je sais pas, descend,
je sais pas comment vous pouvez traduire ça. Allez-y. J'en sais rien, je pose ça là. Je pose ça là, vous prenez.
Ouais. Non mais à chaque émission, il y a des indices comme ça.
Devant le micro s'il vous plaît si vous parlez.
Très rapidement, les montagnes russes investissent les parcs d'amusement du monde entier. L'une des plus célèbres historiquement est probablement The Cyclone Coney Island. Je l'ai travaillé toute la journée.
Coney Island, peut-être.
Construite en 1927, elles sont initialement construites en bois, dont certaines comme Big Diaper of Pleasure Beach.
Ok. Mmh. Voilà. Ouais, d'accord. Okay, ouais.
Non, c'était pour l'accent, je regarde.
Oui,
c'est bon,
oui,
ça
non,
passe.
Ouais.
C'est, ok.
Ouais, j'ai pas d'avis.
Non. Okay.
J'ai pas d'avis sur la question.
Bon, c'est parfait.
Pleasure Beach, oui. C'est
qui
un
sont
accent
toujours opérationnels 70 ans après. Enfin,
ah oui.
Vraiment, ouais.
Ah c'est... oui, donc le bois solide, quoi.
Ouais, vraiment.
Ça va bien craquer quand même.
En 2010, les montagnes russes lancées par Formula Rosa situées à Dubaï, avec un train propulsé à moins de 5 secondes de vitesse à la pointe de 240 km/h, sont les montagnes les plus rapides.
Ah oui, 240 km/h en 5 secondes. Ah oui, même non, les voitures font pas ça, Nicolas. Hein, non. Ah oui, tu dois te prendre quelques G quand même dans la tronche.
Ouais, c'est un truc de fou.
Et il faut un certificat médical avant parce que.
Ouais.
Ouais, moi c'est ce que je me dis. Je pense que les gens qui. Bah déjà. Quand on voit les parcs à sensations fortes, on dit bien ceux qui sont cardiaques et tout.
Alors en Europe, c'est limité au niveau des G, mais aux États-Unis, c'est pas limité. Donc ils font ce qu'ils veulent. Donc effectivement, ouais. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des montagnes russes qui sont beaucoup plus puissantes là-bas. Et donc là, ce genre de montagnes russes,
ça serait un peu. Je pense que je monte dedans, je redescends, mais je suis plus là, quoi.
Ah bah oui, c'est clair.
Ça ne meurt.
Non. Non, mais enfin, ça va quand même.
Aux États-Unis, personne ne meurt bêtement.
Alors il y en a un qui a dessiné une montagne russe pour mourir. Il a inventé une montagne russe qui fait qu'à la fin, forcément, on meurt. Elle n'a jamais été... Non, mais le fait que tu prennes des G et tout ça. Mais c'était juste une invention.
Ça s'appelle un tremplin, finalement.
Oui, c'est ça.
D'accord.
C'est ça. Mais c'est pas ma chronique.
D'après vous, combien il y a de montagnes russes permanentes en France ?
3. Alors, permanente, ah oui.
Ouais, vraiment pas. Sans compter les foires qui se déplacent.
Ah non, parce que par exemple, dans les parcs comme Disney, rien que dans Disney, il y en a au moins 3-4. 5
ouais, des montagnes russes. Japon. Il n'y a pas de montagne russe à Disney.
Il n'y a pas de montagne russe à Disney.
Non, parc Astérix.
Bah, tout dépend ce qu'on entend montagne russe.
Bon, je suis désolé.
Futuroscope, il y en a.
Space Mountain, c'est une montagne russe.
Ah oui, Space Mountain, oui.
Ah bah si.
Roller coaster aussi. Bah,
c'est un roller coaster. C'est... Oui.
Comment il s'appelle
Donc il y en a 3 à Disney.
50
Ah oui, il y en a dans les deux parcs.
Moins 3 Disney.
Écoutez, on revient vers 23h, on vous dit ça.
Une dizaine. 30
Voilà, 3,
une trentaine à peu près.
Il y a des parcs quand même pas mal.
Moi, 30.
Ouais,
30, 40.
Ouais, t'as raison. Ouais,
300. 300.
Attends,
300.
Non, beaucoup
trop.
À Papeille, il y en a moins 15. Tu me les trouves où tes 300
Non, allez, alors combien
dans des
coins
rangés, il y a des.
Une trentaine.
Combien il y en a ?
Il y en a 31. Effectivement.
Waouh ! Bravo !
J'ai même pas triché.
Ouais, c'est bien.
Ouais, 31. Mais c'est impressionnant, j'aurais pas dit.
Tu nous les cites une par une ?
Alors non, je vais pas faire ça. C'est non. Voilà.
Très bien.
Et voilà. C'était la fin de ma chronique.
Eh ben merci, en tout cas. Merci Mathias.
C'est pas au Japon.
On va changer de sujet. Est-ce que vous connaissez les tributes ?
Les tributes.
Bah, ça dépend des tributes de quoi ?
On les appelle aussi les cover bands. Voilà. En français, les groupes de reprise. Ce sont des fans ou d'autres artistes qui, pour rendre hommage à leurs idoles, reprennent leurs chansons. Une occasion pour dire « c'était mieux avant hein, », la plupart des cas. Et puis, quelquefois, on a des frissons, comme pour ce tribute en hommage à Freddie Mercury lors d'un concert géant du reste du groupe Queen. En guest, le groupe s'offrait George Michael. 33 millions de vues plus tard sur YouTube, on retrouve cet hommage dans CMA. Voici Somebody
Thank you.
C'était Somebody Love. Alors certes, c'était aussi bien avant, hein, mais c'est quand même un sacré bel hommage. Et dans ce concert, il y a eu d'autres invités qui ont repris les chansons du groupe, comme Zucchero, Paul Young, Seal, David Bowie, Elton John, Zaminelli, plein d'autres. Un tribute datant de 1992 devant 72 000 spectateurs. Allez, il est temps de découvrir maintenant le sommaire de la deuxième partie de CMA. Pour faire court, elle va nous habiller pour l'été, et avec un peu plus qu'un triangle. Quoique. Bonsoir Caro, on parle de quoi ce soir ?
Bonsoir, et oui, ce soir ce sera toi et moi dans le même Bermuda.
Toi et moi dans le même, c'est beau, c'est joli.
Bah on vous regarde. Hein.
Il se fait rare dans CMA, raison de plus pour bien en profiter ce soir. À lui seul, il fait deux roues. Bonsoir Cisco.
Non, t'as pas le droit,
J'ai pas compris.
Quel sera ton sujet ?
Eh bien la moto, d'où le jeu de mots, merci Bruno.
Voilà.
On enchaîne.
Ça c'est fait. Excusez-moi. Et pour terminer l'émission, on retrouve Florian. Florian, quelle page Wikipédia nous lis-tu ce soir ?
Alors ce soir, on va revenir aux tout premiers journaux d'actualité filmés, et c'était bien avant la télévision, donc on verra ça ensemble tout à l'heure.
Ah, il y avait des journaux avant la télé.
Ah oui, il y avait des journaux avant la télé.
Bref, ok, on verra ça. Et pour le Graal, on vous parlera de la fille de Victor Hugo qui apparemment avait un pet au casque. C'est donc le moment d'écouter la deuxième partie de CMA. La consigne de cette année est de faire une chronique courte. Elle a pris cette consigne au pied de la lettre, en faisant aussi court dans la coupe de ses vêtements. Il est temps de se faire tailler un short. Voici la chronique de Caro.
Bermuda. Je me promène dans la pampa. Je me promène dans la pampa.
Oh, ukulélé.
Et on découvre des choses.
Bah oui, t'es en train de la chanter, tu la connais par cœur.
Bah non, bah ça reste dans la
tête. Mais sinon, il y avait toi et moi dans le même
berceau.
Vous avez pas
la ref. C'est l'amour.
Mais oui, quand même, c'est votre génération, les gars.
Oui, mais des fois, j'essaye de trouver des choses originales.
Être en Bermuda dans la pampa, c'est super bien.
C'est super, ouais.
Ça chatouille un peu les...
J'ai adoré, je l'écoute en boucle ce soir.
On y va.
Et oui, les origines du Bermuda, donc. Eh bien, c'est au 19e siècle. On prend un peu de sérieux. C'est au 19e siècle. Les soldats anglais sont en service dans les Bermudes. Vous y êtes, là ?
Bermuda, ça y est, oh là, d'accord.
Il se plaignait de la trop forte chaleur, difficile à supporter avec un uniforme complet. Le gouvernement les autorise alors à raccourcir leurs pantalons au-dessus du genou.
Tu travailles chez Carglass, toi, non? Ou... Au niveau du jeu d'acteur, je sais pas.
Bah oui, bah, je m'imprègne un petit peu, là, tu vois, situation, bah, l'armée...
Pièce, 2 euros.
Pour le nom, eh bien, l'explication est plus que simple, puisque c'est l'archipel où les soldats étaient en poste aux Bermudes.
Eh ben oui.
Alors, Bermude en français, ouais. Mais Bermuda en anglais, et l'anglicisme est resté.
D'accord.
Voilà. Oh, alors, les soldats devaient toutefois accompagner leur Bermuda par des chaussettes qui montaient jusqu'aux genoux.
Oh, c'est classe.
Les Hollandais ainsi qu'une cravate. Encore,
hein. Les Hollandais, les Allemands,
on embrasse tous les.
Ah ouais. Ainsi qu'une c'est cravate. Vrai que les Allemands, bah oui. Ouais. Fallait pas trop faire olé olé quand même.
Une cravate avec le Bermuda aussi.
Ah oui, avec la petite chemise. Bah, c'était l'uniforme amélioré. Il faut quand même garder le côté un peu strict. Hein.
Okay.
Alors, le Bermuda peut également être appelé un short habillé, voire un short de marche. Et son ourlet, à un revers ou non, doit être à un pouce au-dessus du genou.
D'accord.
Voilà. Donc c'est une tenue hyper populaire, hein, qui fait semi-décontractée. Seulement aux Bermudes, territoire d'outre-mer britannique, il est considéré comme une tenue d'affaires avec une chemise, cravate et le blazer.
Ah oui, encore aujourd'hui.
Oui, encore aujourd'hui.
Un blazer en plus.
C'est une vraie institution. Oui.
Alors, froid en dessous mais chaud au-dessus quand même. Hein.
C'est ça, ouais.
Ouais.
Ouais. T'es aéré des jambes, c'est tout. Ouais. Alors les vrais Bermudas ne doivent pas être confondus avec les pantacourts, n'est-ce pas Bruno?
Oui, c'est vrai, c'est un peu plus
donc,
long.
Sous le genou ou mi-mollet ou les cargos qui sont encore plus amples en fait. Donc c'est un short qui continue d'être porté par la Royal Navy, par la Marine Royale Canadienne et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une pénurie de vêtements aux Bermudes. Et alors les présidents et vice-présidents des plus grosses banques de l'archipel craignaient que leurs employés n'aient plus de tenue adaptée pour venir au travail. Donc ils se sont arrangés pour qu'un tailleur local s'en occupe. Ils ont alors confectionné en flanelle grise, donc hyper irritante, pour chaque employé, deux Bermudas, voilà, mais qui étaient hyper incommodants, hyper inconfortables. Et avec ceux-ci, ils donnaient deux paires de chaussettes longues en laine épaisse.
Oh là là.
Vraiment la cata, quoi. Vraiment, non, le faux cadeau, quoi.
Bah, dans les images. T'es encore plus chaud, en fait.
Alors, de cette catastrophe, ce fut quand même le début du vrai Bermuda comme tenue de travail officielle des Bermudes. Voilà. Mmh. Alors, dans la période d'après-guerre, les marchands locaux comme Trimingham Bow et N.C.A. & Smith ont amélioré la conception et ont adopté des couleurs plus vives et des tissus un petit peu plus confort, ce qui l'a rendu encore plus populaire. Alors, d'ailleurs, pendant les JO, si vous regardez, la délégation des Bermudes porte traditionnellement leur short rouge. Le short rouge confectionné aux Bermudes.
Mais c'est un short.
C'est pas un Bermuda.
Si, c'est
un Bermuda.
Si, c'est un Bermuda, mais c'est pour
un
faire
short plus long.
Synonyme, je peux pas dire Bermuda tout le temps, quoi.
Non, mais je sais pas, il y a peut-être une règle au sport où on n'a pas le droit de porter un Bermuda ou.
Ah si, c'est si. C'est leur Bermuda officiel qui a été confectionné chez eux. Okay. Voilà.
C'est leur short.
C'est leur short à eux. Pour le reste du monde, alors il a été très popularisé par la classe bourgeoise américaine, par exemple, c'est très pub Ralph Lauren, par exemple, en Angleterre avec le style dandy, en France aussi. Alors, pour les femmes, il est arrivé un peu plus tard. Il y a eu un gros boom en 2014 grâce à des créateurs comme Donna Karan ou Marc Jacobs qui l'ont fait dans des tissus brillants.
Alors,
et avec
Nicolas,
des
je te dis tout de suite, si tu comprends absolument pas sa chronique, si tu connais personne de ce qu'elle dit, c'est normal, nous non plus.
C'est pour ça que je viens moins, moi.
Mais tu dis rien, parce que sinon ça dure plein des plombes et tout. Donc,
mais Marc Jacobs, quand même. Marc Jacobs.
C'est un coureur automobile.
Il sait.
Ah bon
non Il sait.
Tu connais Marc Jacobs?
Bah, ça me dit quelque chose.
Ouais, bien sûr. Mmh. Foutons de ma gueule.
Donna Karan, c'est D-K-N-Y.
Ok.
Donc, popularisé par Donna Karan et Marc Jacobs, et il est presque un incontournable en bleu marine, noir ou taupe.
Taupe. Le fameux taupe.
Le fameux taupe.
Quand tu sais pas une couleur,
le
tu dis taupe.
Hein. Taupe. Et voilà, et pour les garçons, mais des couleurs pastel, rose, orange, jaune. Donc, vous, c'est messieurs, c'est l'ultime chic.
Mais il y a des Bermudas de bain aussi.
Qui sont des shorts de bain.
Ouais, mais ça ressemble à des Bermudas un petit peu. Ils sont
en fait, le côté Bermuda, il est utilisé pour dire que c'est une matière un peu plus noble et qu'il est classe, il est classique.
Ah oui, donc
il est
pas
classique.
Short de bain, d'accord, ok.
Voilà. Okay. Tout ce qui est décontracté, c'est les shorts.
Ok.
Point.
Voilà. Ah, c'est la fin de la chronique. Eh ben...
Voilà.
Ok. Merci, Caro.
Pas de rien.
Allez, si la nuit, vous croisez une voiture avec un seul phare, c'est peut-être une moto. Oui, je sais, ma vanne est complètement nulle, je m'autocasse. Voici la chronique de Cisco.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un bout.
canon semait la terreur dans toute la région.
N'est pas toute la chanson, je te rassure.
Non, mais c'est vrai que t'avais le choix et c'est pas mal.
Hein, ça va.
Ouais, j'aime bien.
Bon,
je crois que ma grand-mère l'écoutait en 1865 avec Huguette qu'on embrasse.
C'est ça, tout à fait.
Alors, il y a quelques jours, j'ai participé à une balade moto. Voilà, sur les bords de la Loire. Avec
on est bien content.
Mais oui, voilà.
Enfin, point. Voilà. C'était une belle chronique, moi je dis. Ça nous a fait voyager. C'était vachement agréable. Merci. On va passer
on
maintenant.
On a parlé moto, tu vois.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Alors que j'étais au guidon de mon incroyable deux roues, une Honda 650 Shadow pour les connaisseurs,
oui.
Autour de cette table, je suis pas sûr, j'ai dit à mon passager qui était donc derrière moi, puisque nous sommes en moto, c'est quand même une belle invention la moto. Bon, en vérité, je pense qu'il a plutôt entendu...
Tu m'étonnes
la qualité des effets spéciaux.
Ouais, j'ai bien.
C'est pas mal, hein.
Ouais.
J'ai travaillé. Hein. J'ai vraiment marqué en plus.
Une sacrée chronique, ça.
Voilà. Ça va être court, hein, je te rassure. Et oui, car la moto anciennement appelée motocyclette a été conçue par un Français. Que vous connaissez tous, évidemment,
ah bon
Louis-Guillaume Perrault, en 1868. Donc on n'est pas très très loin de la voiture.
C'est encore des Français qui ont inventé ça.
Ouais, c'est fou,
qu'est-ce qu'on a tout inventé fort, bah oui.
À l'époque, c'était un engin doté d'un moteur à vapeur qui entraînait la roue arrière et des pédales pour les roues avant. Bon, le premier prototype n'a jamais roulé sur route puisqu'il était fixé par une barre en acier à un axe circulaire et tourné en rond.
D'accord.
Voilà.
Ah donc, oui. Si tu veux,
oui, c'est comme un manège, quoi.
D'accord.
Voilà, c'est exactement ça.
D'accord.
C'était l'ancêtre des montagnes russes. Il y a trop de liens dans toutes c'est les chroniques, c'est incroyable.
Totalement.
Au fil des décennies, de nombreux ingénieurs européens sont venus améliorer l'innovation française, qui est devenue de plus en plus populaire. À tel point que de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains commencent eux aussi à concevoir leurs premiers deux roues motorisés. Il faut quand même noter qu'une des inventions majeures dans le monde de la moto vient de chez
Harley.
Exactement.
Yes,
Harley Davidson. Yes, il y a qu'une marque américaine que
bah,
tout
oui,
connaît.
Que je connais.
Voilà. Bon. Elle est placée. Le plus important constructeur de gros cylindrés au monde, donc, Harley-Davidson. En 1912, Harley-Davidson met au point un système d'embrayage positionné dans le moyeu de la roue arrière. Ah, ce que tout le
okay,
monde voit.
Ouais.
Ce qui permet donc de passer des...
vitesses.
Eh bien non, parce qu'en moto, on dit des rapports.
Ah.
Voilà, je vous l'apprends. C'est juste le terme technique.
C'est vrai que c'est mieux pour pécho une
ouais, c'est une pièce mécanique qui change, alors c'est pour ouais. ça.
Il a essayé de te piéger quand
ouais,
même.
Bah oui.
Hein, tu
bah
notes.
Oui, mais je suis tellement facile à piéger.
Non, mais il a beaucoup de connaissances, Bruno, et je n'en doute pas.
Ah, oh bah tu m'étonnes.
C'est donc un système commandé de la main gauche grâce à un levier.
Ah
et
bon
oui, c'est pas la petite
bah,
pédale qu'on a
pied.
Maintenant. Eh ben non, ça a été inventé en 1927.
D'accord.
Avant,
donc,
c'était
donc
vraiment
on passait
comme,
les rapports avec la main.
Exactement, c'est ça.
Un rapport avec une main, tu sais, ça s'appelle autrement. Hein. Enfin, moi, je dis rien.
Les rapports, l'amour, encore en lien.
Oui,
il n'y a que ça. Incroyable.
Non, mais ça veut dire qu'on lâchait le guidon pour passer la vitesse.
Exactement. Ouais, mais c'est pareil, à l'époque, on roulait pas très très vite.
Ouais.
Puis bon, si on roulait en moto, c'est qu'on était déjà un pilote.
Donc bon, d'accord.
Juste
qu'il n'y ait pas eu Huguette devant, quoi. Mais
oui,
voilà, sinon, c'est bon.
Huguette, elle en a vu passer.
Oh là là.
Oh, des rapports, oui.
Non, ça, c'est Simone.
Simone. Ouais. L'héritage d'Huguette, on les embrasse. Alors que les innovations se multiplient du côté de chez Harley aux USA, Ducati en Italie, Triumph en.
France.
Non.
Allemagne.
Allemagne. Yamaha, ça, en Japon.
Honda au.
Japon.
Au Japon, très ouais. bien. Du coup, j'ai perdu le fil de mon truc. À partir des années 70, elle s'impose de plus en plus auprès d'amateurs motivés par son rôle grandissant au cinéma à travers des films déterminants comme L'équipée sauvage avec Marlon Brando et son Harley Davidson. Voilà, donc pour les plus vieux, pour les Bruno d'entre vous, certains se souviennent peut-être
même
des publicités des années 70 où la moto était vendue comme un symbole de liberté, d'aventure
et de virilité surtout.
Aussi, oui.
Ouais. Très macho quand même.
On repense, voilà, tu viens de casser mon lien.
Oh,
j'allais
merde,
faire désolé, j'allais dire, en repensant à mon état de bien-être sur la route avec mes amis le week-end dernier, je me dis que 50 ans plus tard, ces phrases sonnent toujours vraies.
Ouais.
De nos jours, un Français sur trois possède une moto, ou plutôt un deux roues motorisé pour inclure les scooters, qui sont quand même.
Ah, c'est beaucoup,
utilisés.
Hein, un tiers.
C'est beaucoup, ouais. Ouais, ouais c'est
ah ouais.
Ouais, ouais. Je crois que sur le parc automobile, ça représente 12 ou 13 millions
c'est
de.
C'est pas véhicules. Mal ça. Ouais.
C'est énorme. Oh. Pour finir, j'aurai deux questions à vous poser sur le monde de la moto. Pour
ah,
un petit peu vos
alors vas-y.
Est-ce que vous allez. Savez. Pose photo. Est-ce que vous savez ce qu'est un virolo?
Un virolo.
Un virolo. S'il y en a qui ont déjà fait de la moto, ils ont
un
peut-être déjà entendu
virolo,
ce mot.
Oh là, virolo. Et... alors les auditeurs qui connaissent, ils vont dire ouais, qu'est-ce qu'on est.
Bah oui, s'il y a des motards, oui, ils vont savoir.
Bon, Nicolas, s'il te plaît, t'es.
Ça
c'est...
peut, je pense que dans le monde automobile. Il y a
et nous,
aussi. Ouais,
un virolo, bon, je sais pas. Non.
C'est un lien avec la conduite de la moto. Parce que vous le savez, en moto, on ne conduit pas de la même manière qu'une voiture.
Non.
Évidemment.
C'est
on
pour
penche,
rester droit.
On penche.
Ouais.
Ah, c'est un niveau pour.
Non.
C'est
un virage qui est assez rigolo à prendre en moto.
Faut, ouais, toucher, faut toucher le, rigolo, forcément, le genou. Mais,
alors on sait pas si ça vient de justement la jonction entre virage et rigolo. Il y en a qui disent que c'est un mot dérivé italien aussi.
Donc c'est, on va faire un virage où on se penche pour toucher le genou.
Voilà, c'est, bah, non, c'est un virage assez serré qui est très agréable à prendre en moto.
D'accord.
C'est la définition qu'Internet.
Faut avoir très très confiance en ses roues, à la route et à la moto. Hein.
Ah, ouais, en général, on roule en moto pour ça. Hein. C'est, ouais, pour justement ces, d'accord, petits virolos. Donc c'est pas assez souvent que dans une discussion entre motards, tu vas entendre le mot virolo.
Oui, bah oui, c'est un petit peu.
C'est pas une maladie virale, c'est juste.
Oui, c'est un petit peu ça. Ouais,
j'ai attrapé une virolo.
Tu peux le faire, voilà, si tu veux. Bon. Et deuxième question, et la dernière, est-ce que vous savez d'où vient le fameux salut motard ? Vous voyez, quand il y a deux motards qui se croisent, on fait ça.
Ah, c'est un V ?
Oui, c'est un V, ouais.
Comme, bah, la
c'est
victoire.
C'est le mec qui chevauche la moto, non, c'est pas ça ?
Non, V, c'est pas ça, ça vient pas de là.
Alors, est-ce que c'est une victoire sur quelque chose ?
Oui, oui, ah, oui, tout à fait.
Une victoire, ils ont réussi à...
C'est la victoire sur l'automobile.
En fait, ça vient d'un pilote britannique qui a été très 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 connu, je pense le plus connu pendant les années 1970, ouais, qui a gagné énormément de prix.
Et il faisait toujours un V comme
et ça. En fait, à chaque fois qu'il gagnait une course, il allait devant le banc où il y avait tous les gens qui regardaient, et il faisait toujours ça.
Un V.
Voilà, d'accord. Il s'appelait, alors attendez, je retrouve son nom, Barry Shane. Voilà,
ouais, bah écoute, enchanté.
Le pilote moto le plus connu et le plus titré des années 70, qui
réalisait le moins connu,
de la main après chaque victoire,
d'accord,
durant le tour d'honneur, et qui saluait donc le public. Voilà, maintenant vous êtes incollable en deux roues, alors grand V à vous et bonne soirée.
Ah bah ok, très bien.
Et du coup, le mouvement de pied là pour dire merci quand tu laisses passer en voiture.
C'est ça. Mm-hmm. Bah ça en fait, ça...
Non, c'est plus pour se détendre le pied. Quand
non, c'est pour remercier quand les automobilistes.
Moi je croyais que c'était parce qu'ils étaient tout le temps tendus et qu'à un moment donné, ah je me détends le pied. Ah, c'est pour dire merci.
C'est parce qu'à l'époque, on le faisait avec la main gauche et en fait personne ne le voyait, du coup on le fait avec le pied droit. Quand on double quelqu'un du coup par la gauche, on le fait avec le pied droit pour remercier la personne qui nous a
aidé. Moi je croyais que c'était se détendait le pied.
Et d'accord, pas du tout.
Tu sais, oh la vache. Et les motos électriques alors, c'est bien ou c'est.
Chronique moins... suivante.
C'est moins virulent. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est ça, c'est vraiment
on
la.
On a parlé de moto, on a
la virilité des motos, voilà, qui fait tout ça. Bah, va falloir t'y mettre quand même. Hein. Ok, merci en tout cas pour toutes ces informations. Allez, Olivier, notre spécialiste cinéma n'est pas là ce soir. Pourtant, c'est bien dans une salle que nous emmène Florian. Voici La tête dans le pâté, les actualités de Florian.
Oui, bonjour, les actualités régionales.
Bienvenue.
0-0, 0.
Ah oui, non, c'est pas non plus ça. Jean Mineur,
oui. Oui, c'est de la pub, c'est vrai. Alors, les premières actualités étaient donc filmées et c'était des courts-métrages au cinéma.
Ok.
Voilà, donc les premiers JT au monde étaient.
Alors, c'est pas JT, parce que JT, c'est journal télé.
Oui, journal télévisé. Mais
donc, des JC, oui, mais comme Jésus-Christ.
Les JA, les journaux d'actualité.
Ok.
On va dire ça comme ça. Donc, étaient diffusés en projection, généralement avant un film classique, un long métrage. C'est entre 1907 et 1950 que ces films étaient produits toutes les semaines pour coller au mieux à l'actualité.
Ah oui, il fallait être speed.
Puis les moyens de production n'étaient pas les mêmes, je pense.
Ouais.
Et en période de guerre, ces journaux seront toutefois loin de l'objectivité journalistique revendiquée à la télévision aujourd'hui.
Tu m'étonnes.
Quoique
ouais.
certaines ne se revendiquent pas d'objectivité.
Ouais.
Je ne veux pas les citer. En France, on a le premier journal de ce type qui date, à votre avis, de quelle année ?
1912.
Alors ça va avec le cinéma, donc forcément.
Ah ouais, donc c'est vraiment début du siècle.
Ah oui, c'est oui.
Ouais.
Bah 1900, non ?
Donc 1895.
Ah ouais, pas loin.
Donc à la fin du 19e.
Date de naissance de Bruno.
Ça y est, j'ai remis ça.
Ah d'ailleurs, il va faire la chronique puisqu'il il enseigne de quoi ?
Je me souviens très bien comment c'était.
Voilà.
Je faisais les voix off.
Alors, ce premier journal parlait du congrès de la photographie à Lyon.
D'accord, on a même le sujet du premier journal.
Eh oui, voilà, c'était ça. Et donc à l'époque, il n'y avait pas de son, par contre.
Ah, d'accord.
Puisque le cinéma parlant ne date que des années 30.
Oui, effectivement.
Alors, à l'époque, il y avait déjà de grands reporters qui parcouraient le monde, mais on faisait aussi des reconstitutions en studio.
Ah.
La concurrence était tellement rude, d'ailleurs, entre les différents studios, qu'on embellit parfois, souvent, l'actualité avec des images non authentiques, et plus sensationnel.
Ah mais on déjà reconstituait l'actu et puis on
déjà à l'époque news, quoi. Il y a un petit coup de buzz machin, il faut avoir les meilleures
sympa.
Images. Et
ah ouais, c'était pas les vraies images qu'on voyait. D'accord.
Quitte à adapter un petit peu la réalité, mais
comme l'atterrissage sur la lune. Tout ça.
Ouais, tout ça c'est faux, ouais. J'imagine bien.
Tout à fait. Alors, c'est par un coq chantant que le Pâté Journal, d'où la tête dans le pâté.
Ah oui,
bien sûr.
Okay.
Le Pâté Journal hebdomadaire prend vie en 1909 et suivra aussi donc le même genre de journal. Avec les Gaumont Actualité.
Ah mais c'est deux concurrents.
Donc le concurrent, mais en fait Pâté et Gaumont, ce sont les deux mêmes c'est les deux frères qui ont créé Pathé et Gaumont.
D'accord. Avec Adidas, comme
et donc plein de les deux se sont fait concurrence pendant des années et maintenant c'est la même chose, Pathé et Gaumont.
Tout ça pour ça.
Ouais. Tout ça pour ça, oui c'est ça.
Franchement.
Effectivement. Alors il a fallu alors tout inventer, y compris ce qu'on pouvait montrer ou non. Il y a eu par exemple un reportage sur une quadruple exécution capitale. Super.
Attends, juste avant le ciné.
Juste avant le petit film.
Super. Voilà, super. Que tu vas voir après.
Je vais voir un Disney et puis juste avant. Oui, paf.
Allez, on en voir après.
Coupe-lui la tête.
Ah ouais. Et donc du coup, les journalistes se sont quand même demandé si, enfin, les images qu'il fallait montrer ou non. Donc on a eu la censure des actualités et plus efficace encore l'autocensure, justement, de se dire avant ce qu'on montre ou pas. Donc au cinéma et aujourd'hui ce qu'on montre ou pas à la télé
aussi,
puisqu'on montre pas tout. Durant la Première Guerre mondiale, les sujets sur la guerre justement étaient récurrents, forcément. L'armée met pourtant du temps avant d'accepter des journalistes sur le terrain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Allemands qui imposent leurs actualités par le biais du seul fournisseur autorisé à diffuser, qui était à l'époque France Actualité.
Très objectif, j'imagine.
Eh oui. Et d'ailleurs, un des directeurs avait à l'époque émis l'hypothèse...
Que peut-être...
attention. Que toutes ces actualités pro-nazis n'étaient pas super trop objectives, quoi. Il s'est fait virer.
Ah oui,
voilà. Ah, bah voilà.
Je pense que d'ailleurs, il s'est fait peut-être tirer une balle.
C'est ça, ouais.
Alors, la couleur arrive, elle, qu'en 1918, donc tout était sans son et sans couleur, bien sûr. Donc la couleur arrive, elle, en 1918, l'occasion d'un film sur le défilé victorieux des troupes françaises, ça tombe bien.
Ouais.
Le son, lui, arrive aux États-Unis en 1927, avec en actualité le premier vol transatlantique de Lindbergh.
Ok.
À chaque fois, il y a un petit événement quand même qui colle.
C'est ça qui fait qu'ils en profitent.
Qui colle à l'arrivée d'une nouvelle technologie. Ah, il faudra attendre 1932 pour que Gaumont Actualité ajoute sa première voix off pour commenter les images. Voilà, d'ailleurs je vous propose d'écouter un extrait qui date de 1956.
France-Angleterre de rugby à 15 à Colombes. Les Français en maillot sombre débordent les Britanniques. Ouais,
c'est vraiment à ça qu'on s'attendait. En fait.
Bah oui, c'est ça, c'est le bruit, effectivement. Ok.
Voilà, donc ça c'était un extrait des actualités Gaumont de 1956. Mais bon, la télévision, qui commence à bien s'implanter quand même dans les années 50, sonnera le glas de ce journal, ce grand écran. Les derniers magazines ciné Gaumont disparaîtront en 1980, quand même, laissant 80 ans d'histoire comme autant de témoignages d'une époque.
C'est vrai, heureusement quand même qu'ils ont fait... Alors, il faut se méfier parce qu'apparemment, il y en a qui étaient un petit peu fake news, mais...
Ah bah oui, par contre.
Mais au moins, on a tout ça.
De toute façon, il faut avoir du recul par rapport à l'information.
Mais ça a permis de filmer le quotidien et ouais, c'est quand même assez intéressant. Merci Florian. Avant de découvrir qui sera le CMA+ de ce soir, voici le Graal. On nous a demandé de parler de l'histoire d'Adèle H. Vous connaissiez Adèle H ?
Ça te dit un truc ?
Il y a eu un film, effectivement. C'est une des filles de Victor Hugo. Eh bien, voici les infos du Graal.
Question de François, c'est qui Adèle H ?
C'est une des filles de Victor Hugo, mais bon, elle allait pas bien dans sa tête. Hein. Et faut dire que l'amour rend fou quelquefois. Fille de Victor Hugo, donc je suppose que vous savez qu'on est au 19e siècle. Elle aurait eu 192 ans en 2022, je peux vous la situer. À 22 ans, Adèle est déjà en dépression. Et c'est dans cet état fragile qu'elle tombe amoureuse d'un ami de la famille, le lieutenant anglais Albert Pince. Alors lui, il ne capte rien du tout. Hein. Alors il fait semblant, mais en tout cas, il snobe complètement Adèle. Mais quand Albert part au Canada, elle le suit discrètement. Pendant les 3 ans qui suivent, elle ne le croise que quelques fois, plus ou moins par hasard, mais sans plus. Albert est alors transféré à la Barbade. Elle déménage aussi. Elle est tellement amoureuse de ce fantôme qu'il lui arrive même de le croiser en réel sans qu'elle le voie. Un comble. Tout cela devient pathologique et elle finira par être rapatriée en France pour être internée dans un asile où elle y restera jusqu'à sa mort à 85 ans. Eh oui, elle est morte Adèle. Fin de l'histoire. Et si elle vous a plu, je vous conseille le film de François Truffaut de 1975, L'histoire d'Adèle H.
Ouais, la porte Adèle n'était pas obligatoire.
Ah, c'est parfait.
Fallait qu'elle soit passée là.
Bah, on ne s'y attendait pas. Hein.
Oh, bah, pas du tout.
On ne l'a pas vu arriver du
pas
tout.
Du tout.
Dans un instant, on saura qui remporte le CMA+ cette semaine. Mais avant, un autre tribute. On a parlé tout à l'heure, ce sont les reprises en hommage à un artiste. Je vous propose celui qu'a fait Lady Gaga pour Elton John. Voici Your Song dans CMA. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where
If I were a sculptor, but then again, no, or a woman who makes potions on a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, these verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. If they're green or they're blue.
C'était Your Song, un hommage de Lady Gaga à Elton John, c'était en 2018 au Grammy. Il est temps maintenant de découvrir le CMA+ de la dernière émission.
Pourquoi tu rigoles ?
Voilà, s'ils tapent sur la table avec leurs mains pour...
Avec quoi d'autre ?
C'est pas des bambous, hein.
Ouais, c'est ça, effectivement. Chaque semaine, un panel d'auditeurs donne son avis sur les chroniques de l'émission précédente. Suite à un vote, un sujet rentre dans les podcasts plus de Radio G. Alors, qui cette semaine a remporté le CMA+ ? La semaine dernière, on avait la mythologie et les sirènes, le surf, le jeu Ozu avec Lucas, la psychanalyse avec Manu et le top 50.
Je dirais le top 50.
Alors, eh ben c'est un gagnant cette semaine. Donc Manu, non.
Florian.
Non, il a pas cité mon sujet, donc non.
Bah si.
C'était quoi ton sujet, toi, déjà ?
Les sous-marins.
C'est ça, les sous-marins. Si, voilà. les sous-marins, effectivement, aussi. Donc c'est pas toi non plus, effectivement. Eh ben non, en fait, les auditeurs, ont été étonnés parce qu'ils ont découvert que les sirènes étaient des êtres volants et non des femmes aux queues de poisson.
C'est dingue.
Voilà. Eh bien, c'est bien Olivier qui remporte le CMA+.
Bravo,
Olivier. Alors, il est en Suisse, là. Voilà. Donc, on l'embrasse, notre petit Suisse. Bravo à toi. Allez, merci aux chroniqueurs et queuses de ce soir. Merci, Florian.
Merci.
Merci, Mathias, qui est au bout. Merci, Nicolas.
Merci.
Bravo pour ta chronique et on te revoit, bien sûr, à la prochaine émission. Merci, Manu.
Merci à vous.
Merci, Caroline.
Merci, bonnes vacances.
Et merci, Sco.
Parfait, bisous, Bruno.
Mais non.
Allez, ciao.
Mais non.
Et merci d'être venu, Soso.
De rien.
Ça nous fait plaisir. J'espère que tu reviendras dans les prochaines. Voilà, ça va être la rentrée, on va travailler, etc.
Il y a un mois encore.
Très bien. Ah oui, bah oui. Alors, mais on continue tout l'été, nous. Hein. Allez, on se retrouve très vite sur les ondes ou dans les podcasts. Ouais. Cherchez CMA et vous nous trouverez. Hein. D'ici là, n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.